Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Ces filles aguicheuses, elles aguichent avec leur robe, leur rouge à lèvres. Elles s'amusent, elles dansent. Et qui va pouvoir les arrêter? Il n'y a personne. Mais toi, tu les arrêteras.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. Et oui, mais qu'allez-vous lire cet été sur la plage? Parce que déjà qu'il n'y a pas forcément Culture Prohibée de diffuser à la radio l'été, ça dépend des stations, je vous invite à aller sur notre blog. Il va falloir emporter quelques livres quand même, histoire de bronzer intelligemment. Alors nous, cette semaine, on va vous conseiller de lire Maniac, de Stéphane Bourgoin, préfacé par William Lustig. C'est le volume 7 de la collection Compact Horror, et c'est disponible aux éditions Faute de Frappe. On vous causera aussi de Apportez-moi la tête de John Huston, de Julius M. Stein, qui est paru chez Marest Éditeur. On abordera également Denzel Washington en toute conscience, alors avec un S entre parenthèses à la fin de tout et S entre parenthèses après conscience. Donc ça, c'est un livre de Jacques Demange qui est paru chez Carlotta Film. On abordera le roman photo Les Amours de ma chérie de Marguerite Aboué. On l'abordera en compagnie d'Isabella Maya, qui est l'actrice vedette en fait de ce roman photo. C'est l'actrice vedette avec donne la réplique d'ailleurs à un certain Albin de la Simone. Ça, c'est paru aux éditions du Seuil. Et enfin, on ira à la rencontre de William Blanc parce qu'il a signé la préface d'un nouveau livre paru aux éditions, des éditions qu'on aime beaucoup. Hein. On avait ouvert la saison avec justement l'éditeur David Meulemans, les éditions Aux Forges de Vulcain. Et Aux Forges de Vulcain, là, il publie Un regard en arrière d'Edouard Bellamy. Et c'est notre ami William Blanc qui fait la préface, et c'est donc notre ami William Blanc qui nous a accordé quelques minutes pour causer de l'ouvrage. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Séverine Donflou, Marc Falvo, Pierre-Julien Marest et David Meulemans pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie bouquin, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, hein, parce que quand même. On est régionaliste hein, chez nous. Hein. Et chaque nuit de pleine lune, bah, lui, il se transforme. Hein, et puis, il va rédiger des sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme et bonjour à toutes.
En parlant de type qui sort la nuit, moi, je vais vous parler de Maniac. de Stéphane Bourgoin, préfacé par William Lustig. C'est une novélisation, vous l'avez compris, du film de William Lustig, qui est donc le volume 7 de la collection Compact Horror. Et c'est disponible aux éditions Faute de Frappe.
René Château présente Maniac. La terreur règne sur New York. Chaque jour, des femmes meurent, sauvagement assassinées. La police enquête, mais le Maniac continue son horrible collection.
Ah !
Maniaque. Votre vie sera un enfer si le maniaque s'intéresse à vous.
Je vais vous parler aujourd'hui du dernier livre donc, de Stéphane Bourgoin, qui est une novélisation du film d'horreur culte Maniaque, que William Lustig réalise donc en 1980. Un film que j'adore, incroyablement malsain, qui raconte le quotidien d'un tueur en série, Frank Zito, interprété par un Joe Spinell complètement habité. Ce livre est écrit par Stéphane Bourgoin, comme c'est très bien expliqué par Marc Falvo, l'éditeur, dans sa postface. Oui, Bourgoin a eu quelques démêlés, enjolivant son CV, travestissant son passé, mais il n'en demeure pas moins que cela ne justifie en rien d'arrêter de le lire, tant il reste un spécialiste de deux sujets, et ces deux sujets de prédilection, hein, les tueurs en série et le cinéma. Il est donc bel et bien l'homme de la situation pour signer cet ouvrage, d'autant plus qu'il a fait amende honorable, donc on ne participera pas au lynchage médiatique assez disproportionné quand même dont il a pu être victime. Et puis, bon, j'ai un rapport particulier à Stéphane Bourgoin, parce que pour moi, c'est avant tout un auteur de livres sur le cinéma qui ont été des livres de chevet me concernant. Hein. Ils ont compté dans la construction de ma cinéphilie, que ce soit le livre signé avec Pascal Mérigot intitulé « Série B », ceux sur Roger Corman, Terence Fisher, Richard Fleischer, des livres qui sont parus dans les années 80, une époque où on ne parlait pas du tout de ces cinéastes et où on ne les considérait pas comme des auteurs dignes de ce qualificatif. Et puis après, Stéphane Bourgoin, bah c'est aussi le libraire hein, du Troisième Œil, cette librairie qui vendait mon fanzine à l'époque, Fantasticorama, et grâce à Stéphane Bourgoin d'ailleurs, qui l'avait mis devant lui pendant une interview, je suis resté 5 minutes non-stop sur TF1, une fois Fantasticorama sur TF1, je n'en revenais pas moi-même, voilà. Et puis après tout ça, bah Stéphane Bourgoin donc, est devenu un spécialiste des tueurs en série, à tel point qu'il a été en rencontrer plusieurs en prison, qu'il a pu les interviewer. Tout cela a été édité en son temps par Backfilm. Quand on vous dit que le bonhomme connaît bien son sujet, hein, Marc Falvo et moi, on ne vous raconte pas de crack. Dans sa postface, j'ai découvert que j'avais un point commun, un autre point commun avec l'éditeur. Parce que tout comme lui, j'ai un rapport particulier à Maniaque. Alors je vous laisse découvrir ce qui motive le sien, il faudra lire le livre. Parce que moi, c'est un film que j'ai vu quand j'étais ado, après avoir longtemps fantasmé sur la jaquette au vidéoclub du papa de mon ami Quentin. Oui, parce que j'avais un pote dont le père dirigeait un vidéoclub. Et je peux vous dire que ça, quand on est cinéphile, c'est vachement bien. Ça s'appelait Graffiti, c'était à Noyon dans l'Oise. Alors ça n'existe plus, hein, évidemment, mais bon. Et un jour, on a loué cette vidéocassette avec des copains qui étaient majeurs, parce qu'il était interdit au moins de 18 ans, c'est les films que vous ne verrez jamais, disait René Château. Et puis on les a vus quand même, voilà. Donc le même soir, on a regardé Maniaque et Evil Dead, hein, petit coucou à Yvonix, on était chez lui à ce moment-là. Et on est resté complètement bouche bée devant ces deux films, que j'ai revu depuis des dizaines de fois. Je pense d'ailleurs que Lustig est un réalisateur très sous-estimé, en particulier, je pense à Vigilante, qui pour moi est un des meilleurs films justement de Vigilante, jamais réalisé, un des plus intelligents qui soit. Et je garde un souvenir ému de cette soirée, parce que c'est une des premières fois, en parallèle avec un cycle Hitchcock qui était diffusé sur TF1, que j'ai pris conscience du rôle de la mise en scène au cinéma. Alors ce qui est très intéressant avec cette novélisation, c'est que justement, comme Stéphane Bourgoin est un fin connaisseur de la chose, il a, à la fin du livre, inclut un chapitre avec des statistiques existantes dans lesquelles sont classifiés les tueurs en série, mais les vrais tueurs en série. Et dans cette liste, il fait comme si Frank Zito n'était pas un personnage fictif, comme s'il existait réellement et il l'intègre à cette étude statistique. La démarche est très intéressante parce que ça renforce du coup le côté mythique du personnage. Et puis, bon, ce tueur de fiction quand même, on le rappelle, parce qu'il n'existe vraiment pas, ce tueur, joué par Joe Spinell, acteur génial, hein, qui est mort très jeune et qui manque énormément à son réalisateur William Lustig. C'est William Lustig lui-même qui nous l'explique dans la préface du livre. Et pour en revenir au livre lui-même de Stéphane Bourgoin, si vous pensez que l'exercice de la novélisation est un exercice assez réducteur et que, quand on a vu le film, on ne va pas y trouver d'intérêt, eh bien vous ferez le doigt dans l'œil. Parce qu'avec Maniaque, Stéphane Bourgoin signe certainement un des meilleurs titres de cette collection compact horreur avec Bloody Gloves de Robert Slasher, destiné Nation Amityville de David Didlow et le Slugs de John Hudson, soit trois romans originaux dont un a été adapté au cinéma et les deux autres s'inspirent de sagas horrifiques existantes. Et là, Bourgoin arrive à se sortir de l'écueil de la redite liée à la novélisation, utilisant grandement sa connaissance de New York. Rappelons qu'il a vécu à New York à la fin des années 70, début des années 80, qu'il a participé à des tournages de films coquins à petit budget. Donc il connaît ce New York craspec, dégueulasse, pas encore nettoyé par Giuliani. Il utilise donc à merveille toutes ses connaissances des lieux pour nous remettre dans cette ambiance singulière. On sent qu'il y a été, qu'il y a vécu, ça regorge de références, comme par exemple celle liée au condamné à mort Carrie Chessman, cas qui a généré toute une littérature, un engouement conséquent aux États-Unis par rapport à son exécution jugée injuste par de nombreux observateurs. Et surtout, et c'est ce qui est le plus intéressant, Bourgoin crée un background à son personnage de Zito. On en découvre plus sur sa sœur, on découvre aussi sa rencontre avortée avec une certaine Ève, sa relation avec sa mère, la carence paternelle, son parcours à l'armée, parce qu'évidemment, en connaisseur de sujet, Stéphane Bourgoin sait que très souvent, les tueurs en série qui sont des psychopathes passent par l'armée pour pouvoir assouvir leurs fantasmes. Au final, la partie qui est consacrée vraiment aux scènes du film constitue une portion congrue de l'ouvrage. Un ouvrage qui va vers autre chose, permet d'ajouter du mythe au mythe Frank Zito. Du coup, on extrapole par rapport au film en découvrant un peu plus qui est le mystérieux Frank Zito. C'est pour ça que je pense que c'est une novelisation particulièrement réussie que signe Stéphane Bourgoin. C'est un livre vraiment nécessaire pour ceux qui sont fans comme moi du film de William Lustig et aussi pour ceux qui sont intéressés par les écrits de l'auteur. Un Stéphane Bourgoin qui fait donc le choix de transformer Zito en mythe vivant, réel, en particulier dans la dernière partie de l'ouvrage. De fait, il renforce l'aura maléfique de ce personnage dont il n'hésite pas non plus à nous montrer les fragilités et les souffrances. Mais même s'il n'en reste pas moins que c'est un salaud de psychopathe, pour paraphraser William Lustig. Ce livre particulièrement pertinent, intéressant, adopte une démarche vraiment singulière. Il est pour moi un des meilleurs opus de cette collection. C'est donc Maniac de Stéphane Bourgoin, paru dans la collection Compact Horreur. C'est disponible aux éditions Faute de Frappe. Vous écoutez Culture Prohibée. Après Maniac, je vais maintenant vous parler d'un réalisateur et d'un livre sur le cinéma. Ce réalisateur, c'est John Huston. Et le livre, qui est paru aux éditions Marest Éditeur de Julius M. Stein, s'appelle « Apportez-moi la tête de John Huston ».« Apportez-moi la tête de John Huston » est-il le titre d'un livre que Sam Peckinpah aurait consacré à l'immense metteur en scène du Faucon Maltais, du Trésor de la Sierra Madre, Quai Largo, Quand la ville dort, Moby Dick, etc. etc. Que nenni ! Cet ouvrage, c'est le premier essai d'un certain Julius M. Stein, dévoyé du droit chemin par la vision du malin, signé d'un certain John Huston. Il faut dire que la vision d'un Brad Dourif plongeant dans l'enfer religieux en a retourné plus d'un, dont votre serviteur. À l'image du personnage d'allumé campé par Dourif, le livre de Julius M. Stein adopte un ton des plus singuliers. Osons le dire, « Apportez-moi la tête de John Huston » est un livre assez halluciné, ou plutôt une sérieuse biographie d'un homme bigger than life, car rappelons-le, ce réalisateur, écrivain, scénariste, parfois acteur, fut un aventurier. Le chasseur blanc-cœur noir d'Eastwood, c'est lui. Fut un boxeur, dont d'ailleurs il a signé Fat City, l'un des plus grands films jamais tournés sur le noblard. Fut un incroyable collectionneur d'art, dont les amitiés avec Man Ray ont été à l'origine d'une folle rumeur l'impliquant dans l'affaire du Dahlia Noir. Et plein d'autres choses. Tout cela nous est conté par Julius M. Stein dans un livre à la forme à la fois légère et ambitieuse, qui a la particularité de réunir la culture avec un grand C et ce que le grand capital nomme aujourd'hui la pop culture. Ainsi, Guillaume le Conquérant croise le tigre de Manassa. Il y a même Doc Gynéco qui se promène dans les parages, tandis qu'au lieu de rechercher le temps perdu, l'enquête sur l'identité réelle de Beethoven, dont la vie mériterait bien un film, alias Rhett Marutt, règne dans les dernières pages du livre. Apportez-moi la tête de John Huston, voit un auteur dialoguer avec John Huston himself. Le bougre va jusqu'à évoquer TikTok, pas sûr que notre époque aurait convenu à ce grand buveur, qui d'ailleurs s'exila lors de sa folle jeunesse après avoir tué accidentellement une femme alors qu'il conduisait sous l'emprise de la dive bouteille. Un drôle de type, ce John Huston. Un peintre passionnant également. Enfin bref, un homme venu d'ailleurs aux multiples facettes que Julius Epstein explore de façon singulière via un livre qui fait des allers-retours dans le temps, alterne une biographie foisonnante avec des dialogues imaginaires dans lesquels parfois les éditeurs s'invitent, propose des illustrations étonnantes telles ces décollations houstoniennes qui passionnent nos rétines fort peu rétives, et nous nous laissons emporter dans le maelstrom créatif de ce livre racontant la vie unique du fils unique de Walter Huston. John Huston, enfant, d'ailleurs était atteint d'une maladie grave qui devait quitter ce monde à l'âge de 12 ans, et il a vaincu la mort une première fois. Ce n'est là que la première pierre d'une légende que Julius Epstein nous décrit sur un ton unique, mais il fallait bien cela pour honorer la mémoire de celui dont le cinéma constitue une mine d'or inépuisable. Ça s'appelle « Apportez-moi la tête de John Huston ». C'est hautement recommandé par nos soins. C'est signé Julius Epstein et c'est disponible aux éditions Marest.
I must emphasize at the outstart that the Honorable Elijah Muhammad is not a politician. So I'm not here this afternoon as a Republican, nor as a Democrat. Not as a Mason, nor as an elk.
Well, tell us what you're here for.
Not as a Protestant, nor a Catholic.
That's right.
Not as a Christian,
on,
nor a Jew.
All right, now.
Not as a Baptist, nor a Methodist.
Yes.
In fact, not even as an American.
Yes, sir.
Because if I was an American, the problem that confronts our people today wouldn't even exist.
That's right.
So now we ain't Americans, huh?
So I have to stand here today as what I was when I was born. A black man.
Autre livre sur le cinéma que je voulais chroniquer aujourd'hui, c'est Denzel Washington en toute conscience. Alors en toute conscience au pluriel, mais entre parenthèses. Alors Denzel Washington en toute conscience de la maîtrise du jeu de Jacques Demange, paru chez Carlotta Film. Ce livre, c'est le premier consacré au comédien et réalisateur iconique du cinéma, élu en 2020 par le New York Times meilleur acteur du 21e siècle. Un acteur et un metteur en scène qui ne cesse de fasciner, en particulier de par l'intensité de son jeu, mais aussi par son art du soft power. Lui, qu'une partie de la communauté noire a parfois accusé d'être trop en retrait par rapport aux événements qui se déroulent aux États-Unis. Et pourtant, grave erreur, parce que le bonhomme est loin d'être inactif. Mais il préfère s'exprimer via ses productions. D'ailleurs, Jacques Demange les décortique, et en particulier leur côté engagé. Et tout autant engagé sont ses choix de carrière. Lui qui est, rappelons-le, l'acteur fétiche de Spike Lee quand même, c'est un réalisateur hautement politique. Donc Denzel Washington a aussi mis le pied à l'étrier, au sens propre comme au figuré, à toute une nouvelle génération dans laquelle figure son fils, mais aussi par exemple Michael B. Jordan, à l'affiche il y a peu d'un des blockbusters les plus stimulants qui soit. J'ai nommé Sinners de Ryan Coogler. Et là où le livre se démarque du tout venant, c'est lorsque son auteur décortique le jeu de Denzel Washington. Il analyse son brio technique. Ça, c'est très intéressant, c'est rarement fait, en fait, dans les livres sur les acteurs. On raconte souvent leur vie, on analyse rarement leur jeu. Donc c'est un livre qui embrasse complètement son sujet. C'est le premier opus d'une nouvelle collection, la collection Persona. Ça démarre très bien avec ce livre très réussi de Jacques Demange, donc qui s'appelle Denzel Washington en toute conscience et qui est paru chez Carlotta Film.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial sortie bouquin.
L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. le grand amour. Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour.
Bon, avec les trois livres que je viens d'évoquer, là, j'ai un peu trop parlé quand même. Et puis, bon, moi, je suis venu avec mon ami Thomas, puis Thomas, lui, il est venu avec un livre avec des images, parce que c'est quand même mieux les livres avec des images.
Jérôme, est-ce que je te sers à faire de coup?
Moi, je suis un mec qui aime bien expérimenter des trucs, mais bon, j'ai pas lu le roman photo dont tu veux nous parler, alors je prendrai pas de risque.
Alors, le coup de coup, qui est aussi appelé Gbélé, est une boisson spiritueuse produite en Côte d'Ivoire à partir de la distillation de bourgeons de feuilles de palmier, comme le palmier à huile, le raffia ou le rognier. Tu peux en boire en Afrique de l'Ouest, à tes risques et périls, car sa fabrication ne se fait pas toujours dans de bonnes conditions, en plus d'être un alcool particulièrement nocif. Donc, et pourquoi je parle de Koutoukou dans cette chronique littéraire, hein, pourquoi? Mais parce qu'il en est question dans le roman photo de Marguerite Aboué, Les Amours de ma chérie. Photographié par Kader Diaby, styliste et photographe ivoirien, cette première incursion de l'autrice de Aya de Yopougon dans le roman photo suit ma chérie, incarnée par la comédienne et humoriste Isabella Maya, qui vient de se faire larguer comme une malpropre par bien-aimée. Comme quoi, il y a des hommes qui n'ont aucun goût. Malheureusement, pour la pauvre ma chérie, sa famille la presse de venir à Abidjan pour qu'elle leur présente enfin son fiancé, bien-aimé, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais qui est parti. Désespérée, ma chérie a une idée. Faire passer le clochard qui végète en bas de chez elle pour son fiancé. Un clochard alcoolique, bien sûr, mais qui a la particularité de s'appeler Julio Iglesias, de chanter des chansons de Julio Iglesias à tue-tête et d'être incarné par Albin de la Simone, un chanteur qui, paraît-il, est connu.
Et que j'apprécie énormément, donc monsieur ne connaît pas, mais c'est son problème, j'ai envie de dire, n'est-ce pas?
Exactement. Le faux couple se rend donc à Abidjan pour la dot, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Les amours de ma chérie se partagent clairement en deux parties. Malheureusement, un peu inégales. La première qui se déroule à Paris est la plus réussie et la plus drôle. Et pour cause, l'influence d'Isabella Maya s'y ressent et fortement. Par sa présence, sa façon de se mettre en scène, elle exprime son humour décalé, parfois à la limite du non-sens, comme les photos dans lesquelles elle traîne son désespoir dans les rues de Paris. La deuxième partie à Abidjan se révèle plus foutraque, avec une tendance à partir dans tous les sens, des sous-intrigues pas très développées, et si les personnages sont plus nombreux, ils sont tous un peu frappés. Jugez-en plutôt l'épouse d'un diplomate qui souffre d'un dédoublement de personnalité, une paire de cousines qui croquerait bien le fiancé venu d'Europe, des cousins qui piquent facilement du nez, des kidnappeurs pas très doués et une maman africaine qui reconnaît Julio comme son propre fils. Métissage des cultures, un mélange des genres se retrouve au rendez-vous dans Les Amours de ma chérie. Ce roman photo vous fera voyager de Paris jusque dans la forêt ivoirienne en passant par les maquis d'Abidjan. Un véritable cocktail d'humour et d'aventure avec du suspense, des retournements de situation et de l'action. En particulier quand Julio doit remporter un duel au coutoukou à faire pâlir de jalousie Karen Allen. Les Amours de ma chérie de Marguerite Aboué et Kader Diaby avec Isabella Maya dans le rôle titre et Albin de la Simone est paru aux éditions du Seuil.
Et tout de suite, nous allons retrouver Isabella Maya au micro de Culture Prohibée.
Love me.
Cette rencontre entre l'univers de Margaret Aboué et l'univers d'Isabelle Amaya, est-ce que c'est quelque chose d'improbable qui était prévu depuis longtemps ou...
C'était pas vraiment prévu depuis longtemps, mais quand Marguerite a écrit... au début, le titre initial, c'était « La Belle et le Clochard ». Et quand elle a écrit, elle a tout de suite pensé à moi parce qu'elle s'est dit que ça se rapprochait un peu, beaucoup même de moi, et que je pouvais être celle qui pouvait bien incarner ce personnage. Donc, elle a proposé à la maison d'édition Seuil, qui a tout de suite accepté. Et voilà comment l'aventure est née.
Isabelle Amaya, vous êtes comédienne, humoriste, productrice, réalisatrice. En tant que comédienne, est-ce que ça change beaucoup de jouer dans un roman photo par rapport à une série télévisée ou un film de long métrage ?
Au début, c'est bizarre. Ça fait bizarre au début. Parce que on prend l'expression et on se fige. Et on attend que le photographe fasse des photos jusqu'à avoir satisfaction avant de passer à l'émotion d'après. Donc au début, ça fait bizarre, mais après, ça va. On s'habitue et c'est même marrant de le faire.
Et en tant que comédienne, quand je lis Les Amours de ma chérie, j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup d'Isabelle Amaya dedans. Quelle est votre implication dans ce projet ?
Écoutez, quand on... Peu importe le projet qu'on fait, si le réalisateur... accepte que les comédiens puissent donner un peu plus que d'eux-mêmes que ce qui est là. Une fois que le réalisateur ou l'auteur donne libre cours aux comédiens, tout de suite, on peut donner quelque chose, on peut rajouter un peu de nous, surtout beaucoup de nous. Donc oui. Elle m'a quand même laissé, Marguerite Aboué m'a laissé aussi apporter quelques idées, enfin voilà, pour compléter et voilà. Donc en tout cas, je fais des suggestions qu'elle accepte ou pas, mais voilà. Après, c'est elle qui a forcément le dernier mot et voilà. Donc elle m'a proposé, je lis, je propose et puis on y va. Mais c'est déjà tel que c'était écrit, c'était déjà, il y avait déjà, je pense qu'elle pensait fortement à moi quand elle écrivait Les Amours de ma chérie, parce qu'il y a beaucoup de moi dedans.
Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi productrice et réalisatrice. Quels sont vos projets à venir dans ce cas-là ?
En tant que réalisatrice et productrice. J'ai des capsules que je suis en train de monter actuellement avec l'équipe technique, donc on est en post-production, des capsules qui s'intitulent « Au secours, ma belle-mère chez moi ». Donc voilà, il y a une chaîne télé en Côte d'Ivoire qui est très suivie d'ailleurs, qui s'appelle NCI, qui a passé la commande pour 50 épisodes. Donc voilà, nous sommes en post-production. Et puis, cette chaîne est également intéressée pour une saison 2. Donc là, nous sommes en négociation pour la saison 2. Et puis, voilà, on va y aller.
Parce que donc, vous avez fait vos premiers pas en tant que réalisatrice l'année dernière, mais en fait, vous faites de la mise en scène depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail de mise en scène, notamment sur ce spectacle que vous avez produit qui s'appelle « Origine non contrôlée ».
Oui, j'ai fait de la mise en scène depuis très très longtemps, ça c'est vrai. J'ai mis en scène pas mal de pièces déjà, avant même Origine non contrôlée. Après Origine non contrôlée, c'est la toute première pièce que j'ai écrite. Au début, je pensais ne pas être capable d'écrire une pièce, donc j'ai hésité même à faire appel à une personne pour écrire. Et puis finalement, je me suis dit non. Je pense que je sais, même si à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais je savais exactement ce que je ne voulais pas. Donc, sachant déjà ce que je ne voulais pas, je pouvais tout de suite essayer de voir et puis pour ce que je voulais. Donc, origine non contrôlée, quand c'est né, bah, avant même que ça naisse, j'ai fait, je pense, pendant un mois ou un mois et demi, tous les soirs, j'allais dans des cafés-théâtres, j'allais au théâtre pour regarder ce qui se faisait à Paris. Et chaque fois, je me disais, ah non, ça, je veux pas, ah non, ça. Et donc, ça, quelque part, aidait finalement à savoir et forger ce que je voulais exactement pour pouvoir écrire Origine non contrôlée et mettre en scène ensuite. Voilà.
Et en plus de Les Amours de ma chérie, le roman photo de Marguerite Aboué, où est-ce qu'on peut vous voir, Isabelle Amaya, prochainement? Dans un film, sur scène, dans une série?
Oui, on peut me voir déjà au théâtre avec Origine non contrôlée en septembre au Sentier Léal, qui s'appelle maintenant la Comédie Léal à Paris. Ensuite, nous sommes en train de voir avec l'équipe pour essayer de trouver d'autres dates dans d'autres villes ou d'autres pays. Mais là, déjà, commencer à vous préparer pour septembre, pour voir Isabelle Amaya sur scène voilà, à Paris. Et ensuite, je suis en train de préparer aussi un autre projet de série et de long. Donc, ne soyez pas impatients, ça va pas tarder. Et puis, après, on pourra bien en parler et vous pourrez, plus tard, quand ça sera fait, voir au cinéma.
Je m'autorise à rêver d'un monde où les gens me laissent enfin rêver un peu. M'a pas fait la page, j'ai grandi dans ma chambre. Puis c'est 14 ans déjà avec de la pluie. Logique, fallait que je puisse qu'il a deux. Sur la route, j'avais là les démons qui m'ont empêché. Je suis parti chez moi, j'ai cassé les chaînes. J'ai rencontré Sénard, on le fera mieux à deux. Heureusement, j'ai encore ma daronne, donc j'ai pas tout perdu. Y'a une ouverture, elle croit en moi, elle m'a dit tout le monde dessus. Je fie à sa parole, mais elle est hyper dure. Tu sais ton perturbe, je regarde vers les étoiles, je me sens tout petit. Et on juge pas un livre à sa couverture. Si maman, grâce à toi, je suis respectable. Là, je prends un pompe, j'achète un double tir. Mon cœur dans ma tête, tu sais, c'est le drame. Je sais, t'es mon frère, mais je peux pas tout te dire. Je sais, t'es mon frère, mais je peux pas tout te dire. Tant je me livre un maximum sur cette trame. Nous empêcher, mais jamais on cèdera. Les rideaux se fermeront à la fin du spectacle. Là, on sera heureux, mon gars, je suis utopiste. Et pourquoi les aiguilles courent vite? On m'a appris à apprendre, mais comment j'oublie? J'avais pas d'outils. Comment tu t'en sors quand c'est ça ta routine? Tout vide. Gros, ma vie c'est la routine. Empathique, je suis mieux au monde en pleurant déjà. Maintenant c'est si le sale rookie. J'espère que je me rends souriant et avant mes gars.
Vous écoutez Culture Prime.
Oui, je suis pas égoïste. Je remercie ceux qui me font croire en moi. Parce que putain, c'est dur. La confiance, y'a pas de notice. J'ai quelques frères. Mais je suis sûr qu'avec eux, on va toucher beaucoup de monde. Je suis peut-être faible. Ou je suis fort, un des deux. Mais je me relève si je goûte au goudron. J'ai dû quitter ma vie. Mes amis et ma dent en même temps. Mais je vais les rendre fiers. Les paroles en l'air, je suis à Paris, 17 piges, je crois que j'ai le temps. Et tu sais, je gamberge, je suis addict, j'ai mal. Je pourrais pas dire à cause de quel souvenir. Dans ma tête, j'en ai 30, heureusement pour moi. J'ai trouvé celle qui me fait sourire. Carrément, j'ai des crampes, on s'appelle les petits, on va les manger l'écran. Moi, je veux faire le tour du monde comme Angel en pro. Mes rêves sont à la fois pit, à la fois élégant. J'ai tué un autre projet, c'est carré, là, j'ai l'intro. Yeah, j'ai jamais trouvé ma place, c'est grave simple, mon gars, imagine un trône. C'est pour toi, ça a l'air drôle, gars, écoute la suite du projet. C'est une œuvre, c'est trop, là, je vais crever l'écran. Yeah, je vais crever l'écran. Avant ça, je crève les crans. Je crève mes crans. Avant ça, je crève les crans.
Dans la dernière partie de cette émission, nous allons aborder un ouvrage qui s'intitule Un regard en arrière. C'est un ouvrage d'Edouard Bellamy qui est paru aux Forges de Vulcain. Alors, c'est un ouvrage, une réédition d'un ouvrage assez mythique, connu. On va en parler de toute façon avec son préfacier William Blanc, qui préface donc ce livre. À signaler aussi qu'il y a une postface de Manuel Cervera-Marzal. Mais pour commencer, bonjour William Blanc.
Bonjour, bonjour à tous.
Et je voulais te demander, William, toi qui es un habitué de l'émission, hein, est-ce que tu peux nous présenter l'auteur Édouard Bellamy, là, qui est mis en avant par les éditions aux Forges de Vulcain?
C'est un auteur en fait, qui fait partie d'un courant un peu particulier, donc qui était très populaire en fait, en tant qu'auteur et aussi en tant que courant littéraire en fait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est un auteur utopiste. Voilà, donc c'est-à-dire en fait, il a écrit une utopie, hein, donc notamment bah, justement cette utopie qui s'appelle Un regard en arrière, hein, donc Looking Backwards, donc en anglais dans le texte.
Et c'est aussi, tu nous parles toi dans ta préface d'une Amérique qui est une Amérique du 19e, qui est une société capitaliste, tu parles de l'ère du toc, dans laquelle beaucoup ont vu un vaste territoire vierge où ils pourraient esquisser leur société rêvée. Et on l'oublie souvent vu le pays ultralibéral que sont devenus les États-Unis, mais ça a été une terre de lutte progressiste aussi, les États-Unis. Donc c'est pas étonnant de trouver un auteur américain.
En effet, alors il y a plusieurs choses. C'est déjà, c'est une terre utopiste. Donc, c'est en fait presque dès la fondation, en fait, dès l'arrivée des premiers colons, on a cette idée que vu que c'est un territoire vierge entre très gros guillemets, parce qu'en fait il n'était pas vierge, voilà. Donc, vu qu'il y avait quand même des gens qui vivaient dessus, voilà, mais on n'a pas trop demandé leur avis. Eh bien, on pensait vu que c'était un territoire neuf et vierge, on pouvait recommencer à zéro. C'est-à-dire, en fait, le vieux monde était quelque part décadent, pourri, voilà, donc mal fichu, et donc dans ce nouveau monde, on pourrait reconstruire et essayer de construire une société idéale, quoi. Donc, ce qui fait que tout au long, alors évidemment, ces sociétés idéales, au début, c'est plutôt des versions protestantes, en fait, hein, donc protestantes, voilà, puritaines, voilà, donc. Et puis, petit à petit, au 19e siècle, ça va attirer, y compris les utopistes, plutôt de gauche, en fait, hein, donc y compris des partisans, par exemple, des Français qui sont partisans de Cabet ou de Fourier, qui sont, voilà, en fait, on va dire des proto-socialistes, hein, ils vont tenter de créer des communautés utopiques, en Amérique et notamment au Texas, en fait, hein, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que, en effet, c'est une société, fin 19e, hein, pour le coup, c'est une société profondément inégalitaire, pas du tout comme la nôtre, n'est-ce pas ? Évidemment, je blague, mais c'est intéressant parce que c'est même aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on est revenu en fait quasiment à ce niveau-là, quoi, en fait, hein, d'inégalité. Mais c'est vrai qu'en fait, au fin 19e, c'est l'explosion du capitalisme, notamment aux États-Unis, et ce qui était une société pas égalitaire non plus, en fait, hein, mais une société en fait où les écarts de richesse étaient un peu moins important qu'en Europe au début du 19e siècle, et bien là, pour le coup, il y a des gens qui deviennent, qui commencent à accaparer des fortunes absolument énormes, hein. On pense évidemment à Rockefeller et tout, donc à JP Morgan, à des gens comme ça, quoi. Donc, et ce qui fait que, en effet, cette époque a été appelée le Gilded Age en anglais, donc l'âge du toc. Alors c'est soit l'âge d'or contreplaqué, hein, ou l'âge du toc, avec en effet, cette espèce d'insistance sur la richesse, et avec l'explosion de l'explosion à la fois de certaines fortunes et d'énormes inégalités, quoi. Et donc, ce qui fait qu'en réaction, il va y avoir aux États-Unis la formation de nombreux mouvements sociaux, hein, d'un côté. Hein, d'ailleurs, l'origine du 1er mai, c'est aux États-Unis, en fait, hein, donc on l'oublie, mais en fait, ça vient notamment d'une manifestation aux États-Unis. Et aussi, il va se développer donc à la fin des années 1880 et puis après, dans les années 1890, beaucoup de gens vont essayer de dire, concrètement, ça serait bien d'imaginer une autre version des États-Unis, une autre version de la société, en général, hein, qui serait beaucoup plus égalitaire. Et donc, Bellamy, il s'inscrit complètement là-dedans. Thank you.
It's a beautiful world we live in. A sweet romantic place. Beautiful people everywhere. The way they show their care makes me want to say it's a beautiful world. Oh, a beautiful world for you.
Vous écoutez William Blanc, préfacier de Un regard en arrière d'Edouard Bellamy, paru aux Forges de Vulcain, au micro de Culture Prohibée.
It's a wonderful time to be here. It's nice to be alive. Wonderful people everywhere. The way they comb their hair makes me want to say it's a wonderful place.
On peut rappeler l'intrigue du livre, hein, c'est l'histoire de Julian West, qui est un jeune et riche bostonnais, qui s'endort en 1887 et puis qui se réveille en 2000. Et alors là, il va découvrir un autre monde, mon cher William.
Ouais, alors ça c'est assez marrant parce que cette histoire de on tombe, on s'endort et puis après on se réveille dans un autre monde, ça c'est un classique et c'est même un classique de littérature américaine parce que c'est notamment un des premiers grands romanciers américains qui s'appelle Washington Irving. Il avait écrit un roman qui s'appelle Rip Van Winkle et dans lequel en fait ça décrit quelqu'un qui s'endort avant la guerre d'indépendance, hein, donc avant la guerre d'indépendance de 1776, hein, et qui se réveille après. Hein, et c'est un peu un passage de l'ancien monde au nouveau monde, en fait. Hein, et là, c'est un peu le même principe, en fait. Hein, sauf que évidemment, l'homme s'endort en fait à son époque, hein, à l'époque de la rédaction du livre, hein, 1887-1888, et puis se réveille en l'an 2000, et là la société elle est absolument parfaite. Hein. Et alors, évidemment, la société parfaite, c'est les États-Unis. Alors ça, c'est assez marrant, c'est qu'en fait, il y a cette idée aussi que Bellamy. Alors attention, Bellamy, c'est un socialiste, hein, mais c'est un socialiste qui n'est pas marxiste, en fait, hein, parce que on a tendance à penser que aujourd'hui, les socialistes et les communistes, en fait, hein, étaient tous marxistes. Donc, fin 19e, bon, c'est pas le cas. En fait, voilà. Donc, il y avait plein de tendances différentes et tout. Donc, Bellamy, voilà, c'est un socialiste, pas marxiste. Et pour lui, eh bien, concrètement, il se projette dans le futur et il dit, fin de compte, la société moderne parfaite, ça peut être quasiment qu'aux États-Unis, parce que, pour lui, en fait, hein, c'est vraiment la terre de l'utopie. Hein. Et je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, hein, c'est que il est complètement dans cette idée-là, en disant, en gros, il y a des gens qui ont essayé de monter une utopie dès qu'on est arrivé aux États-Unis, dès que l'homme européen est arrivé aux États-Unis, il y a des gens qui ont essayé de monter des utopies. Et donc c'est normal en fait quelque part que la société utopique du futur se déroule aux États-Unis. Voilà. Et ça c'est assez marrant parce qu'il y a même les caractéristiques, hein, ça on va peut-être en parler, hein, les caractéristiques de cette utopie, elles ont beaucoup de caractères assez typiquement américains en fait.
Oui, ben justement, enfin, d'ailleurs le livre cartonne, hein, puisqu'il vend tout de suite énormément, 300 000 exemplaires dès 1890. Ouais. Toi, tu l'expliques dans ta préface par le fait que le futur décrit, hein, il emprunte beaucoup en fait au millénarisme du protestantisme américain.
Oui, Ouais, parce qu'en fait, Bellamy lui-même, il vient d'une famille de protestants, en fait, hein, donc de prêcheurs protestants. Hein, c'est même en fait, hein, c'est même en fait, hein, c'est assez marrant parce que quand on regarde bien, il y a même le terme millénium, en fait, hein, est cité explicitement par Bellamy, en fait, hein, dans son bouquin. Quand il y a quelqu'un de l'an 2000 qui dit en fait on est peut-être dans le millénium en fait, donc le millénium étant vraiment cette idée qui est très présente dans le christianisme, en tout cas dans certaines branches du christianisme, comme quoi avant l'apocalypse, hein, donc bon, vous savez, l'apocalypse c'est Jésus qui revient sur terre et qui, voilà, c'est le jugement dernier, le combat final, et puis après bon, les gentils comme toi et moi, mon cher Jérôme, nous irons au paradis, voilà, donc et les méchants, voilà, ils iront en enfer. Et donc, ça c'est la vision chrétienne, mais sauf que dans certaines branches du christianisme, on dit que, eh bien, cet apocalypse serait précédé de 1000 ans de bonheur. Voilà, donc une espèce de nouveau royaume parfait en fait. Hein. Et là, c'est très présent chez les chrétiens. Et en fait, quand on regarde bien dans le propos de Bellamy, il y a un peu cette idée-là en fait. Hein. Il y a cette idée donc concrètement, il va y avoir aux États-Unis en fait, hein, il y aura cette espèce de nouveau millénium en fait qui va apparaître. Ouais.
D'ailleurs, toi, tu reviens, parce que ce livre, c'est une ode au progrès, à la technologie, quelque part aussi, on croit beaucoup au progrès, on croit beaucoup à la croissance aussi. Et du coup, tu reviens sur un autre auteur aussi dans ta préface, dont on a déjà parlé longuement dans cette émission, en ta compagnie et en la compagnie de David Meulemans. C'est un autre socialiste utopiste, mais britannique, lui. C'est William Morris, qui a été publié beaucoup aux Forges de Vulcain et aussi un peu chez Libertalia, et grand visionnaire aussi. Mais lui, il a anticipé un avenir, parce que leurs deux bouquins se ressemblent, là, leurs deux bouquins cultes, mais même dans l'histoire, mais par contre, dans l'utopie, n'est pas la même. C'est-à-dire que lui, il a anticipé, William Morris, une époque avec, où on végétalise les villes, tout ça, où il y a de l'écologie. Je trouve que le futur de William Morris, il me convient beaucoup mieux, en fait, que celui de Bellamy.
Ouais, bien sûr, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, le futur de Bellamy, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Alors déjà, un tout petit truc, hein, c'est que Bellamy sort son bouquin, hein, donc 1888, et Morris, en lisant ça, Morris qui lui est un Anglais, en fait, hein, comme tu l'as dit, il réagit à ça en disant « bon, non, moi ça me convient pas trop comme utopie », et puis il écrit sa propre utopie qui s'appelle « Nouvelle de nulle part », hein, qui a été traduite, comme tu l'as dit, retraduit récemment chez Libertalia, en fait, hein, et ce qui est intéressant, c'est que dans Nouvelle de nulle part, en fait, voilà, il propose une utopie, mais qui est une espèce de réponse à l'utopie de Bellamy. Hein. Et vraiment pour dire à quel point à l'époque les utopies, il y en a plein, en fait, hein, donc, parce que ces deux bouquins-là, c'est d'énormes succès, en fait. Hein, donc, et en effet, Bellamy, lui, c'est un Américain. C'est un Américain qui vit dans un milieu urbain assez aisé et qui a une espèce de foi, mais alors, comme plein de socialistes à l'époque, hein, y compris Marx, y compris Engels et tout, même si voilà, on pourra en discuter et tout, mais voilà, mais qui ont une espèce de foi parfois aveugle en fait, hein, dans la technologie, hein, voilà, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le techno-solutionnisme en fait, hein. C'est en gros pour eux, sauf que eux en fait ils n'ont pas encore vu, en tout cas ils n'ont pas constaté les dégâts que pouvait faire en fait, hein, donc l'hyper-industrialisation, surtout aux États-Unis en fait, hein. Et donc ils pensent qu'en fait, vu que le territoire pour Bellamy, vu que le territoire américain est vaste, hein, ils pensent qu'en fait la technologie peut encore, les villes peuvent encore augmenter sans aucun problème et tout. Donc, et il imagine un futur où en effet, les gens, le bonheur en fait est assuré notamment grâce à l'automatisation en fait. Hein, donc, alors ça à côté presque, si on pourrait parler un peu en catégorie de l'imaginaire contemporain, sur l'utopie, ça a un côté un peu steampunk en fait. Hein, voilà, donc avec des machines, voilà, les gens qui ont où tout est organisé, etc. et tout, voilà, donc vraiment, voilà, tout est fait pour produire, hein, mais pour produire pour le bien commun, en fait, voilà, donc et ça, c'est, il est vraiment dans son époque, hein, Bellamy, hein, parce qu'en effet, à cette époque-là, il y a une espèce de développement énorme, en fait, hein, du commerce et de la production, notamment aux États-Unis, en fait, hein, donc, et William Morris, lui, Il vit en Angleterre, qui est un pays qui est industrialisé. C'est le premier pays au monde à avoir connu la révolution industrielle. Hein, donc, mais sauf que ça date d'il y a un siècle, en fait. Hein, donc, ça commence le fin 18e en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est beaucoup plus petit. Et là, pour le coup, Maurice, il voit un peu il est sans doute plus sensible aux dégâts que ça peut causer, en fait. Hein, parce qu'en effet, le pays, il est couvert, il est hyper dense. Il est couvert dans plein d'endroits de mines, de charbon qui ravage le paysage. Maurice vit à Londres, qui est la ville la plus grande à l'époque, hein, donc la plus grande ville à l'époque et la plus industrialisée et sans doute la plus polluée. Et donc il y a vraiment, vraiment une espèce de Maurice, il dit non mais c'est pas possible en fait, hein, ça voilà, il faut revenir en fait il faut faire un espèce de pas de côté. Ça veut pas dire rejeter toute la technologie, mais en fait justement mettre un peu lever le pied quoi en fait, hein, par rapport à tout ça. Et en gros Maurice, son but c'est de dire on va essayer de reconstruire en fait son image. C'est une espèce de société plutôt rurale en fait, hein, plutôt champêtre en fait, hein, donc voilà, qui après ça c'est, je renvoie à l'émission qu'on a faite, hein, va avoir une grosse influence sur la fantasy et puis sur Tolkien en fait, hein, donc, et donc voilà. Mais ce que je dis par là, c'est qu'en même temps l'utopie d'un bel ami, elle est intéressante parce que ça montre aussi c'est presque un peu il y a un côté presque touchant quoi en fait, hein, c'est qu'en fait cette espèce de naïveté vis-à-vis de la technologie c'est un peu étonnant en fait, hein, aujourd'hui avec tout ce qu'on sait, et on se dit ouais en fait voilà, on se met un peu dans la peau des gens de l'époque en fait, hein, et il y a vraiment cette idée que la technologie ça peut ça va aider à les machines en fait, hein, c'est même un propos qu'on retrouvera ailleurs en fait, hein, les machines vu que les machines vont remplacer les ouvriers, les gens ont moins à travailler quoi en fait, voilà. Donc on sait que ça n'a pas trop marché quoi, en fait aujourd'hui, mais on le sait parce qu'on a on vit quasiment 150 ans après quoi en fait, hein, donc voilà, donc c'est pas évidemment, nous on connaît la suite quoi en fait, hein, donc voilà.
Je rappelle, hein, l'ouvrage c'est Regard en arrière, c'est signé Édouard Bellamy, c'est traduit par Francis de Gavremont, je l'avais pas dit, c'est publié aux Forges de Vulcain. La postface est de Manuel Cervera Marzal et la préface est donc signée par toi-même William Blanc. Pour terminer, que dirais-tu pour inciter un jeune lecteur aujourd'hui à se précipiter sur cet ouvrage ?
Eh ben, moi, je pense qu'en fait, ce qui, encore une fois, il y a un côté déjà touchant en fait, hein, par rapport à cette vision du futur. Hein. Donc, il y a un côté étonnant, même presque rafraîchissant en fait, hein, cette espèce de foi dans le futur que nous on n'a pas. Voilà, donc, parce que forcément, hein, c'est ce qu'on appelle, ce que les historiens, on appelle le régime d'historicité. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec le fait de manger moins de gluten. Hein. Le régime d'historicité, c'est en gros comment les sociétés envisagent leur rapport au temps, le passé, le présent, le futur. Bon. Nous, notre conception du futur, elle est assez angoissée en fait, hein, donc forcément, hein, donc et donc sauf que au 19e siècle, justement, c'est pas un rapport angoissé en fait, hein, donc en tout cas pas tout le temps, et c'est même un rapport plutôt positif. Hein, on pense, hein, Bellamy pense que, et même Maurice, hein, c'est la même chose. Hein, les deux pensent que le futur va amener forcément à mieux. Voilà, la révolution socialiste. Alors chez Bellamy et même chez Maurice d'ailleurs, mais beaucoup plus chez Bellamy, ce sera quelque chose en fin de compte d'assez naturel en fait, hein. Les gens vont rationnellement opter pour le socialisme parce que c'est la meilleure organisation sociale quoi. Donc bon, et en fait il y a cette espèce de fascination, je trouve que c'est assez fascinant de voir cette espèce de rapport au temps qui est un rapport très très différent au nôtre quoi. On a l'impression même en lisant ce bouquin de voyager ailleurs. Ça une première chose, et une seconde chose, c'est qu'en fin de compte ça c'est assez fascinant de voir que on est quand même avec des gens comme Bellamy, comme Maurice, et on pourra en citer d'autres, on est quand même à une époque où les gens réussissaient, même si leur quotidien était difficile, parce qu'en fait il le dit, hein, Bellamy, hein, il dit bon concrètement la vie des ouvriers à son époque, elle est très dure, elle est très violente et tout. La société est violente, la société est cruelle et inégalitaire. Et ce que dit Bellamy, c'est il dit malgré ça en fait, hein, donc ils réussissent, Bellamy comme Maurice réussissent à imaginer un autre futur, en fait, à imaginer une alternative. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant parce que je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à le faire, quoi, ça. On a beaucoup de mal aujourd'hui à imaginer une alternative à notre mode, enfin à notre mode de production, à notre mode de vie. Hein. Et c'est peut-être, je pense, une des sources du problème actuel, en fait, hein, donc à ne pas pouvoir imaginer une alternative. Voilà, moi-même, enfin, ouais, j'ai pas de solution, en fait, hein, toute faite. Hein, donc voilà, donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même très très puissant, en fait, de voir que cette possibilité existait auparavant, et c'est quelque chose que, à mon avis, on doit retrouver si quelque part on veut se sortir de l'ornière dans laquelle on est. Voilà, et donc je pense que lire des utopistes, ça peut paraître un peu passéiste, en fait, hein, alors qu'en fait c'est des gens qui rêvaient du futur, mais en fait je pense pas. Je pense que ça permet au contraire d'imaginer aujourd'hui à ce que pourrait être un autre futur que celui que nous promettent des gens comme, par exemple, Elon Musk et compagnie.
C'est juste un petit gars qui grandit à Pretoria, où on prête qu'aux riches, mais heureusement y'a papa qui travaille dans les mines sans avoir besoin d'y descendre. Il a une mauvaise mine, il sort pas trop de sa chambre. Maintenant il bosse dans la tech, mais c'est un grand sensible. Comme ses voitures autonomes, il est en roue libre. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Quand il va en Allemagne, il rend visite aux amis, des gens qui comme lui aiment faire des saluts romains. Il anime les meetings, les mariages, les bar mitzvahs, même s'il souffre d'un peu de tendinite au bras droit. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent c'était pour rigoler. Comme tous les super riches, il crée beaucoup d'emplois. Bon, lui, c'est surtout un licencié qui s'emploie. Avec son ami Donald, il pirate le système. Faudrait que ça ruisselle toujours sur lui-même. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent qu'il est pas désolé. Il a racheté Twitter avec un max de pognon.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. Un petit coup de main de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, à la technique. And the last but not the least, à l'architecture sonore de l'ensemble, Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.
Il met de la kétamine le matin dans ses cornflakes. Sinon il déprime, faut qu'il stimule son cortex. Moi je lui prescrirais plutôt une petite tisane. Mais je suis chansonnier, je suis pas médecin à Sainte-Anne. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent qu'il est vraiment simple.